Bonjour Hervé.
Bonjour.
Vous avez lu la presse ce matin, toute la presse. Ce matin, la question des limites revient avec insistance.
Où fixe-t-on la limite ? Voilà en effet une question qui ouvre des perspectives illimitées. Aucune ligne rouge au soutien de la France à l'Ukraine, aurait dit Emmanuel Macron au chef des partis politiques hier. Pour Le Monde, ce soutien sans limite expose le président au risque de s'isoler sur la scène politique. L'Opinion y voit une escalade verbale, un tourbillon de phrases plutôt déplacées. Le Figaro raconte que, cartes à l'appui, Emmanuel Macron a brossé aux convives un état des lieux de la situation sur le front où l'armée ukrainienne est en difficulté. Mais, à lire Le Parisien, la phrase tant commentée n'était peut-être pas exactement la bonne. Le président n'aurait pas levé toute limite au soutien de l'Ukraine, mais plutôt estimé, je cite, qu'on ne peut pas faire face à quelqu'un qui ne met aucune limite, aucune ligne rouge, et nous-mêmes passer notre temps à nous en fixer. C'est en effet plus nuancé.
Ah ben c'est totalement différent, oui. En une des échos, le CAC 40, lui, ne connaît pas de limite. Record battu hier à la Bourse de Paris.
Cap historique, titre en effet le quotidien. L'indice parisien a plus que doublé en 4 ans et domine ses concurrents européens. Le Figaro explique que le CAC est porté par la perspective d'une baisse des taux d'intérêt et par les résultats de nos grandes entreprises dont les profits auraient dépassé 140 milliards d'euros en 2023. Une autre limite est franchie dans la tribune et 20 minutes qui reviennent, eux, sur la menace brandie par la CGT d'une grève dans la fonction publique pendant les Jeux Olympiques. La secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet, exige que le gouvernement prenne des mesures immédiates, sous forme de primes et d'aides pour la garde d'enfants. Des mesures immédiates, disais-je, pour assurer la réussite des Jeux à laquelle la CGT travaille depuis des années. Si, c'est la citation exacte. La CGT travaille depuis des années à la réussite des Jeux Olympiques.
Bah oui, puisque si elle ne fait pas grève, les Jeux Olympiques seront réussis.
C'est essentiel, tout à fait logique. Participer.
Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques, justement, et parce que c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes, Libération donne la parole à une championne hors norme, Marie-Josée Pérec.
Même ceux qui n'aiment pas l'athlétisme s'en souviennent et l'ont aimé. Trois fois médaillée d'or au JO de Barcelone en 1992 et d'Atlanta en 1996, Marie-Josée Pérec était la force et la grâce, la rage et la peur aussi. J'étais une sauvage, une révoltée en mission, dit-elle. J'avais de la colère en moi. Les gens ne savent pas ce que vit un sportif. Tous les jours, on se réveille avec des papillons dans l'estomac, parfois au milieu de la nuit. On sursaute en pensant à l'entraînement, aux compétitions. Aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, le monde a vu Marie-Josée Pérec craquer. Elle s'est sauvée. « Je me suis pris un mur, mais je me suis relevé », dit-elle dans Libération. Ce mur, c'était sa limite.
Quelle athlète ! C'est un mythe à elle toute seule, Marie-Josée Pérec. Était surnommée la gazelle. On apprend qu'elle détestait ça.
Elle téléphonait même au rédacteur en chef de l'équipe pour protester. Elle dit avoir connu le racisme, souffert des clichés sur les Antillais, leur nonchalance. Et puis, le sexisme, mais pas trop. On a vu des gestes que nous n'avons pas su décortiquer, dit-elle. Tout devient compréhensible grâce aux mots qui sortent maintenant. Certaines situations n'étaient pas normales. Personne ne s'est attaqué à elle, précise-t-elle. C'était impossible. Je ne sais pas si c'est dû à mon éducation très stricte, mais les gens avaient peur de moi. Personne n'a essayé. Il serait mort. Vous parlez du sexisme des médias, mais vous avez souvent fait la une, lui font remarquer les journalistes de Libération. Il n'avait pas le choix, répond-elle. J'ai tout fracassé. C'était du jamais vu. Et vous dites quoi aux filles quand vous échangez avec elles ? Réponse de Marie-Josée Pérec, il faut défoncer le plafond. Une autre façon de dire, dépassez vos limites.
Dans la campagne présidentielle américaine, le sujet est plutôt de savoir s'il devrait y avoir une limite d'âge pour entrer à la Maison-Blanche.
Biden a 81 ans, Trump en a 77. Il leur arrive à tous les deux de dire des âneries. Mais il est vrai que c'est surtout à Joe Biden qu'on le reproche. Dans le magazine Challenge, le prix Nobel d'économie Paul Krugman prend sa défense. Tous ceux qui ont récemment passé du temps avec Biden, ce qui est mon cas, pourront vous l'assurer, écrit-il. Le président est en pleine possession de ses facultés. Il est lucide et maîtrise les moindres détails. Et oui, il parle lentement, mais cela est dû au fait qu'il s'est battu toute sa vie contre le bégaiement. Krugman relève en outre qu'en matière d'énormité, Donald Trump fait bien pire. Et l'économiste signale surtout l'excellent bilan de Joe Biden. Compliment confirmé par Le Monde, qui parle d'un tableau économique reluisant pour les États-Unis et leur président. Inflation retombée à 1,8%, chômage au plus bas à 3,7%, industrie en plein essor. Conclusion de Paul Krugman. Permettez-moi de penser que ces réussites en disent plus long sur les capacités de Joe Biden que ses bourdes occasionnelles.
Le problème, c'est les bilans. Les bons bilans dans les campagnes électorales ne font pas nécessairement les bonnes campagnes et les vainqueurs. On verra. On termine avec le Parisien qui a testé les nouvelles applications dopées à l'intelligence artificielle. Ça revient, là encore, à repousser certaines limites.
Accrochez-vous, car la science-fiction est déjà ringardisée par ces nouvelles applis. Le Parisien décrit les innovations stupéfiantes d'une technologie qui optimise un processus créatif dont nous, humains, croyons jusqu'ici avoir le monopole. Bien plus fort que ChatGPT, le robot conversationnel français Chat Mistral a presque réponse à tout. Il programme un voyage de noces en Namibie, traduit en quelques secondes des chansons ou des discours, identifie une panne de voiture. Il sait même éviter les pièges. À la question « Quel est le bilan d'Hitler pour l'Allemagne ?» drôle de question, il commence à répondre et hop, un message apparaît. Le contenu peut contenir des éléments dangereux ou délicats. Le robot refuse aussi d'aider à fabriquer une bombe. On ne savait pas si l'intelligence artificielle est capable de raisonner. On constate qu'elle est raisonnable.
Les applis testées par Le Parisien permettent de créer de la musique ou des films d'animation tout seul, chez soi.
L'intelligence artificielle révolutionne en effet la création artistique en la mettant à la portée de chacun, pour peu qu'on dispose d'une bonne idée, des bons outils et de rudiments de montage, précise Le Parisien. On peut en effet partir d'un simple dessin pour rédiger un script complet, demander à l'ordinateur d'améliorer chaque image et faire un véritable dessin animé. Une appli spécifique permet ensuite d'animer la photo ou le dessin comme on insufflerait la vie. On peut ensuite créer des voix de synthèse pour faire parler les personnages, ajouter une bande son plus ou moins originale, on referme le journal. Émerveillé et sidéré à la fois, reste évidemment la question du talent de la machine, qui n'est pas la même que celle de ses compétences. Cette limite-là n'est pas franchie, on n'a pas forcément envie qu'elle le soit.
Bah oui, on n'a pas envie d'être au chômage, tiens. Hervé Gattegno, je vous dis à lundi, bon à week-end, lundi. Merci pour cette revue de presse. Dans un instant, nos esprits libres, Cécile Cornudet des Échos et Jean-Marie Colombani, fondateur du site Slate.